Docteur Ernest Mada, bonjour.
Bonjour, monsieur Ngomba Katikiro.
Depuis quelques jours, les rumeurs qui circulent à Bangui parlent d'une seconde éventuelle fermeture des établissements scolaires par rapport à la pandémie du coronavirus. Est-ce que vous confirmez ou invalidez cette information?
Je vous remercie beaucoup d'évoquer cette situation. Au nom de son Excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, je tiens à préciser qu'aucune mesure officielle visant à fermer un seul établissement scolaire dans une quelconque inspection d'académie pour raison de pandémie n'a été prise par les autorités nationales. Je demande donc formellement les rumeurs persistantes selon lesquelles les activités pédagogiques devaient être suspendues à partir du lundi 16 novembre 2020, soit exactement 2 semaines après le lancement officiel de l'année scolaire 2020-2021 à l'école préfectorale de Maïki par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Comité national de lutte contre le coronavirus. Je tiens à mentionner avec étonnement l'occurrence d'une campagne de désinformation et de manipulation qui tente de se servir du système éducatif national et assurément à des fins de perturbation de l'ordre public. Cela a commencé il y a 1 mois par des rumeurs selon lesquelles il n'était pas prévu de second tour pour le bac 2020. À ce titre, l'Union scolaire de Centrafrique, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de Centrafrique et l'opinion nationale savent que le second tour du bac s'est bien déroulé le vendredi 13 novembre.
Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19 en Centrafrique, les enseignants et élèves, voire les étudiants du niveau universitaire, déplorent le manque de volonté des autorités de l'éducation à s'investir pour la mise en application des mesures d'accompagnement comme c'en était le cas avec le personnel soignant très récemment. Qu'en dites-vous?
Je dois d'abord dire qu'il y a la disponibilité d'un plan national de riposte contre la pandémie. Ce plan inclut justement un volet en faveur du secteur éducatif national et qui se décline en 3 axes. Il y a d'abord la sensibilisation et la prévention. Il y a l'accès à des mécanismes innovants et favorables à la poursuite du processus d'enseignement et d'apprentissage. Et enfin, il y a le 3e axe dans lequel nous parlons de développement de la résilience du secteur éducatif. Le plan de riposte est appliqué. Nous exigeons le port de masques dans nos écoles et des efforts importants sont faits en matière de sensibilisation et de fourniture de kits de lavage de mains avec heureusement le soutien de nos partenaires techniques et financiers. Par ailleurs, nous sommes bien conscients de ce que nous enseigne la veille scientifique par rapport à la pandémie. Des mesures de lavage de mains ont été prises dans plusieurs écoles. Tout récemment, nous avons obtenu une dotation en kits de lavage de mains que nous avons eu à distribuer dans plusieurs inspections d'académie. Il est certes possible que l'approvisionnement en eau ne puisse pas être total pour contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie. Il faut regarder l'application des mesures dans leur ensemble et à ce titre, je pense que des efforts extrêmement importants ont été opérés au niveau des 8 inspections d'académie de manière à protéger le secteur éducatif, la communauté scolaire contre la pandémie à coronavirus.
Que dites-vous du financement accordé comme mesure d'accompagnement à chaque département ministériel et que cela attende la réaction des intéressés pour que cela soit décaissé?
Non, on n'a pas attendu une réaction quelconque pour que le ministère en charge de l'éducation nationale, avec l'appui des partenaires, se mette en marche pour pouvoir apporter des éléments permettant l'application des mesures de protection contre la pandémie. On n'a pas attendu. Nous avons suspendu pendant 3 mois les activités pédagogiques relevant de l'année scolaire 2019-2020. Par après, nous avons pris des mesures importantes en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population sous l'autorité du Premier ministre, qui est le président du comité technique de pilotage de la lutte contre la pandémie. Nous avons pris des mesures. On n'avait pas attendu des réactions contrairement à ces informations qui circulent. Les responsabilités ont été prises. Au plus haut niveau de l'État, on a pris des mesures pour la confection des masques, 10 millions de masques. Et ces masques ont été distribués dans les quartiers et distribués également dans des écoles. On n'avait pas attendu une réaction quelconque pour pouvoir le faire. Donc c'est des mesures qui ont été opérées en toute responsabilité sans une interférence extérieure à l'administration de notre système d'éducation et de formation.
Les stations de radiodiffusion ont relayé de multiples cas de fraude massive lors des épreuves écrites du premier tour du baccalauréat avec des preuves, téléphones et documents saisis sur les candidats. Est-ce que la police des examens a été appliquée contre les contrevenants par rapport à ces violations des règles?
Le personnel qui est appelé à appliquer la police des examens et concours, c'est le jury du baccalauréat. Nous délibérons à partir des rapports qui sont fournis par le jury du bac. Nous constatons très malheureusement une campagne de désinformation et de rumeurs au sein de l'opinion. Certainement une campagne menée par des personnes de mauvaise foi qui n'ont pas d'autre objectif que de déstabiliser notre système d'éducation et de formation. On avait évoqué le fait qu'un second tour pour l'édition 2020 du baccalauréat n'était pas prévu. La réalité, c'est que ce second tour a bel et bien eu lieu. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que ce que les gens racontent ici et là au sujet de ces cas de fraude massive sont véridiques? Les rapports que nous avons reçus sont formels et ne remettent pas en cause la validité de l'examen. Donc, nous mettons en garde toute personne qui serait tentée de jeter le discrédit sur la qualité du baccalauréat. Des cas de fraude peuvent exister ici et là, mais des mesures, naturellement, conformément à la police des examens et concours, sont prises pour corriger ce genre de situation qui, je le répète, ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité de l'examen.
Que direz-vous de l'illustration au niveau du centre du baccalauréat du lycée de Gobongo? Beaucoup de candidats se sont illustrés à tricher. Ils sont allés jusqu'à se permettre d'exercer de la violence sur des surveillants des examens. Gifler un surveillant, une surveillante qui se met à pleurer devant tout le monde. Qu'est-ce qui a été réservé à ce type de candidats?
Nous déplorons effectivement l'incident qui s'est déroulé au niveau du lycée de Gobongo durant le premier tour de l'examen, et plus précisément au dernier jour du premier tour. La police des examens et concours est formelle sur ce genre de situation qui interviennent malheureusement durant une épreuve. Le rapport du jury qui a été présenté au niveau du comité de supervision a permis de prendre les décisions les plus adéquates par rapport à cette situation qui, une fois de plus, ne convient pas en tout cas de conduire à des exagérations. Je sais que les forces de l'ordre étaient également intervenues par rapport à ce qui s'est produit au niveau du lycée de Gobongo pour restaurer très rapidement l'ordre, si bien que l'ensemble de ce qui s'est produit au niveau du lycée de Gobongo ne devait pas faire l'objet d'une exagération susceptible de remettre en cause, une fois de plus, la qualité de l'examen. Mais des incidents de ce type sont bel et bien pris en charge par la police des examens et concours et contre les élèves, les candidats qui se retrouvent dans ce genre de posture.
Que dites-vous des surveillants des épreuves du baccalauréat qui entretiennent un système de chapeau circulé pour le faire remplir de jetons et de billets de banque et ensuite ils deviennent eux-mêmes les surveillants du président du jury au lieu de surveiller les candidats?
Mais c'est ce que nous apprenons concernant le déroulement de l'examen à certains endroits. Mais je crains qu'on puisse prendre des rumeurs pour en faire vraiment une vérité qui soit de nature à remettre en cause une fois de plus la qualité de l'examen.
C'est une réalité dans plusieurs centres d'examen.
Bon, ça, c'est les informations que vous obtenez. Nous aussi, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous obtenons des rapports qui sont produits de façon formelle par des présidents de jury qui sont présents sur les sites d'examen, dans les différents centres où nous les envoyons. Il y a plusieurs acteurs qui travaillent au niveau des centres. Vous avez pour un centre le président du jury, avec à ses côtés des collaborateurs tels que le chef de centre qui est le proviseur. Vous avez également des gens qui assurent le service du secrétariat. Vous avez également parmi tous ces surveillants, des surveillants qui ne sont pas forcément du type de ceux que vous êtes en train d'évoquer. Je pense qu'il y a des cas comme ça qui peuvent se dérouler. Il peut arriver qu'un surveillant se montre défaillant, ça arrive, mais je ne suis pas persuadé que l'ensemble des surveillants au niveau d'un centre puissent se comporter de la sorte, de cette manière que vous déplorez. Il est vrai qu'il y a des cas comme ça qui peuvent arriver, mais une fois de plus, c'est important de mettre plutôt l'accent sur l'organisation d'une manière globale afin d'avoir un jugement plus pondéré, un jugement plus régulier par rapport au déroulement de l'examen.
Docteur Ernest Mada, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.